chers auditeurs. Et maintenant, après toute cette météo passionnante, nous retrouvons la séquence spéciale de Radio Grouga.
Radio Grouga, la radio qu'elle est chouette à écouter.
And now it's time for Grouga Radio.
Maintenant, Radio
Grouga.
Radio Grouga.
And now Grouga
Radio.
Grouga Radio.
In direct live, you're listening to Grouga Radio.
Et maintenant, Radio Grouga.
Bien, bonjour à toutes et tous. Nous sommes sur le stand de Funforge qui a été fondé par Philippe Noura un certain nombre d'années. Bonjour Philippe.
Un an.
Un an, voilà. Un certain nombre d'années. Ça peut être au singulier. Voilà. Et donc, Funforge était déjà sur le Salon des Sons l'année passée pour Illusio, juste ?
C'est ça.
Voilà. Philippe est quelqu'un qui parle beaucoup, vous le remarquez tout de suite. La deuxième année, la deuxième présence de Funforge à Essen est ponctuée par la sortie de Pony Express, qui est une boîte un peu plus grande qu'Illusio. Et donc, ce qu'on se propose, c'est de rencontrer Philippe, hein, que vous avez déjà entendu, et qui nous parle un peu de la création et du pourquoi est-ce que Funforge est là, finalement. Bonjour, bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors, l'histoire d'Illusio, c'était la présence à Essen, mais Funforge existait déjà, allez, une semaine avant.
En fait, Funforge a dû exister une semaine après le début d'Illusio, plus exactement. Tout s'est fait en même temps. Voilà, Illusio était le premier jeu qu'on a édité et donc qu'on a présenté ici l'année dernière. C'était pas un prétexte pour créer la société, mais c'était une bonne opportunité de premier jeu à éditer.
Tant qu'à faire, autant éditer un de ses propres jeux, quoi.
Ouais, tant qu'à faire, voilà.
Parce que Philippe Noura est l'auteur d'Illusio.
Oui, accessoirement, et c'est moi.
Voilà. Effectivement. Alors, est-ce qu'on peut repasser un peu sur le mécanisme d'Illusio, même si ça fait un an? Moi, je trouve que ça reste un jeu qui mérite le détour, donc allons-y.
Alors, par où je commence, ça va être difficile puisque c'est pas visuel.
Oui, mais t'inquiète.
D'accord. Bon, alors, la mécanique d'Illusio, c'est un petit jeu de cartes rapide et léger dans lequel les joueurs incarnent des magiciens. Ça se déroule, on va dire, à la fin du 19e. Ça parle de magie traditionnelle, pas de la magie à base de boules de feu et de dragons et d'invocations démoniques. C'est la magie traditionnelle.
C'est pour l'extension, ça.
Ou pas. C'est de la magie traditionnelle, donc l'illusion, le mentalisme, la grande époque, Houdini et compagnie. Pour ceux qui ont vu le prestige ou l'illusionniste, voilà, c'est tout à fait l'esprit du jeu.
Donc on tue pas des gens dans les aquariums avec ce jeu-là?
Non, mais on peut si on veut, mais pas pendant le jeu.
Okay,
mais on peut, mais bon, c'est un autre problème. Ça, et donc le principe est qu'on va donc incarner un magicien qui est défini au hasard au début de la partie parmi 10 magiciens différents. Chaque magicien possède une capacité particulière qu'il va pouvoir utiliser à n'importe quel moment de la partie. Plusieurs fois d'ailleurs, une fois par tour, sur lui ou sur les autres. Et le but du jeu est de gagner un concours de magie qui est organisé parmi tous ces magiciens et qui est symbolisé par 4 cartes de tours à effectuer qui sont placées au centre de la table, qui sont disponibles pour tout le monde. Ces cartes se renouvellent à chaque fois qu'un tour est acquis par un des magiciens. Pour acquérir un tour, pour pouvoir le récupérer, on va posséder dans sa main, tour après tour, on va récupérer des composants qui sont nécessaires pour exécuter ces tours de magie. Les tours de magie nécessitent plus ou moins de composants et donc rapportent plus ou moins de points. Les composants sont de différents types, il y a le public, les formules, les accessoires, les animaux, les boîtes et je ne sais plus le dernier, les artifices, voilà. Voilà. Pour certains d'entre eux, 4 d'entre eux, il y a aussi des sous-types. Par exemple, dans les animaux, on a les lapins, les colombes, les tigres. Dans les accessoires, on a les foulards, les cartes, etc.
La liste de courses habituelle du magicien, quoi.
Voilà, tout à fait. On peut réaliser des tours avec un tour qui demande un animal, par exemple. Pour être réalisé avec n'importe quel animal, ça fonctionnera. C'est la beauté de la magie. Par contre, si on utilise le bon animal, ce sera mieux. Donc, on obtiendra un point de bonus à chaque fois qu'on aura exécuté un tour avec un composant exact.
Ok, et donc ça c'est la première phase. C'est la première phase du jeu, on va dire. C'est réunir les ingrédients pour faire les tours. Et une fois qu'on a les tours, on est prêt à les présenter au public.
Voilà, donc la première phase c'est ça. C'est constituer devant soi ces coulisses, ce qu'on appelle les coulisses. C'est des cartes de composants qu'on va poser devant soi et qui vont nous permettre d'acquérir les tours à partir du moment où on va posséder la moitié des composants nécessaires pour acquérir un tour. Une fois qu'on va récupérer un tour, on va l'avoir en préparation jusqu'à temps qu'il soit terminé, c'est-à-dire qu'on ait réuni tous les composants nécessaires pour le présenter. Une fois qu'un tour est terminé, il est présenté au public, il est mis à l'affiche en fait, et pour pouvoir être validé et en gagner les points, il va falloir faire un tour de table, un tour de jeu, durant lequel les autres joueurs, tout en continuant à faire leurs actions, pourront aussi venir pourrir le spectacle qu'on est en train, le spectacle magnifique bien sûr, qu'on est en train de mettre sur pied.
C'est pas tous les jours qu'on essaie de faire rentrer un tigre dans un chapeau quoi.
Ou sortir, c'est encore mieux. Et donc pour ça ils pourront utiliser des cartes d'action qui sont de différents types, qui vont permettre pour certaines de rallonger la durée de validation du tour, pour d'autres de faire perdre des points, pour d'autres de transformer des composants qui ont été nécessaires au tour pour faire perdre éventuellement des bonus. On pourra aussi utiliser ces cartes d'action pendant ce moment-là pour améliorer son tour, lui permettre de gagner plus de points. À l'issue de cette validation, on va réunir un certain nombre de points que vont nous donner le tour de base, les bonus divers et variés ou les malus divers et variés. On va noter ces points tout simplement et on va continuer son spectacle en récupérant d'autres tours.
Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est un jeu face ouverte, c'est-à-dire que quand on prépare un tour, tout le monde voit qu'on est en train de le préparer, donc c'est pas du bluff.
Pas du tout, c'est pas du bluff du tout, c'est effectivement tout est ouvert sauf les 4 cartes minimum qu'on va avoir dans la main. Et donc tous les autres joueurs peuvent savoir qu'on va a priori essayer d'attraper plutôt tel tour, et ça oblige à faire attention à différents paramètres, aux composants que chacun possède, au pouvoir des magiciens que chacun possède, parce qu'on a tendance à les oublier tout le long de la partie, c'est ce qui rend aussi la chose intéressante, aux différentes familles de tours de magie que les joueurs vont pouvoir exécuter, puisqu'il y a 4 familles de tours de magie et que si on arrive à se spécialiser dans une famille on va gagner du bonus. Donc tous ces éléments croisés font qu'il est assez difficile, malgré le fait que ce soit face ouverte, d'être toujours sûr qu'un tel va faire ci ou un tel va faire ça. Et on a des surprises permanentes et c'est un peu un jeu de mort subite. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, comme il y a quand même des cartes cachées dans la main d'un joueur, il peut avoir les plus de points de bonus auxquels on ne s'attendait pas qui le font gagner immédiatement.
Ok, et le jeu se termine quand ?
Le jeu se termine
quand, jamais.
Quand il est fini. Voilà. Le jeu se termine quand un joueur atteint 12 points. Voilà, ce qui est une limite qu'on a fixée complètement arbitrairement à l'issue des différents tests pour avoir une durée de partie qui avoisinait la demi-heure, ce qui correspond un peu pas à ce format de jeu. Après, si on veut y jouer toute la nuit, on monte la partie à 12 000 points on est complètement libre de faire n'importe quoi. C'est à ce niveau-là.
C'est fun, quoi. C'est fort.
Voilà. C'est ça, c'est beau.
Ok, mais Philippe Nourat n'est pas magicien à la base, donc qu'est-ce qui a donné cette idée-là ?
Ce qui a donné cette idée-là, c'est que sans être magicien, on peut aimer la magie.
C'est pas faux.
Je suis... c'est Côtelette que t'as pas compris ? j'adore la magie, c'est quelque chose qui m'a toujours plu depuis tout petit, comme tous les enfants aiment la magie, et tous les grands souvent continuent à aimer la magie. C'était un thème que j'avais envie d'exploiter, qui était... pas ou très peu exploité dans le milieu du jeu. Voilà, la mécanique est venue du thème finalement et il a suffi de voir 2 films pour avoir envie de mettre sa petite pierre à l'édifice.
Bon, ça c'est la belle histoire de l'année passée. Essen nous a aussi permis de rencontrer le monde du jeu vraiment de manière beaucoup plus pragmatique puisque tout le monde était au même endroit. Maintenant, on a Pony Express, c'est grâce à Essen de l'année passée.
Non, pas tout à fait. En fait, moi, je connais avant Funforge pas mal de gens dans ce milieu-là. Maintenant, SN, bien sûr, a permis de rencontrer beaucoup de gens, principalement des distributeurs, des gens, on va dire, plus business. Au niveau des auteurs pour Pony Express, ça s'est fait plus par relationnel, notamment. Et c'est comme ça qu'on l'a amené cette année sur le salon.
Pony Express, c'est Bruno Feduti et Antoine Boza. On a l'occasion de parler avec Antoine il y a quelques temps à propos du jeu. Maintenant, la rencontre de l'illustrateur est un petit peu plus éclectique, on va dire.
L'illustrateur, oui, c'est un jeune Québécois du nom de Mathieu Beaulieu qu'on a trouvé par hasard. En fait, on cherchait un illustrateur qui puisse correspondre au thème et surtout à la mécanique qui est quand même assez particulière et qui est quand même très axée sur le fun pur et dur, on va dire. Et donc, il fallait quelqu'un qui a un style un peu cartoon, très maîtrisé, parce que on veut que les jeux soient quand même très aboutis. Donc, ça a pris du temps et je l'ai trouvé par hasard au détour d'un site. Il y a une illustration d'un espèce de Mexicain ridicule qui ressemblait à rien, qui m'a fait hurler de rire et je me suis dit, c'est ce type-là. Et il était disponible et il était content. Il est passionné par le Far West. Le fait de travailler sur un jeu, il a trouvé ça super. Et donc voilà, il est embarqué dans l'aventure. Et je crois que le résultat est plutôt réussi.
C'était la première fois qu'il illustrait un jeu.
C'est la première fois. Ouais. C'est la première fois qu'il illustre un jeu. Il est jeune. Il débute sa carrière et je pense qu'il a de beaux jours devant lui, à mon avis.
Effectivement, le plateau est assez rend bien l'ambiance du jeu. Bien, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine ?
Plein de trucs, ouais. L'année prochaine, mais ce sera l'année prochaine.
On peut pas en parler.
Ah, voilà, c'est...
Toujours la même chose, ras-le-bol.
Mais bon, on sera là.
Oui, ça nous aussi.
Comme ça, on pourra en parler l'année prochaine.
Voilà. Okay, d'accord. Bon, Philippe, merci.
De rien.
Et à bientôt.
À bientôt, avec plaisir.
Mais c'est okay. Et bon salon.
Retrouvez d'autres podcasts consacrés aux jeux de société sur le site internet www.podcast.net.
Radio Gruga, c'est bien.